Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Sébastien Lemay.
Bonjour à tous, appel sur l'actualité jusqu'à 9h, temps universel. Dans 30 minutes, comme chaque jour, le débat. RFI vous donne la parole pour parler aujourd'hui de Boko Haram. En début de semaine, le groupe extrémiste nigérian a pris le contrôle d'un camp militaire camerounais à Ashigashia. Et pour la première fois, Yaoundé a dû faire intervenir son aviation. Le mouvement islamiste est donc toujours aussi incontrôlable. Que peuvent faire les États africains? Négocier, envoyer plus de troupes, mieux se coordonner? Nous lançons le débat ensemble, rejoignez-nous au 33 9 693 693 70 ou 09 693 693 70 si vous appelez de France. N'oubliez pas notre adresse email appel@actu.rfi.fr. Rendez-vous également sur nos comptes Facebook et Twitter. Mais avant de lancer le débat, comme chaque jour, vos questions pour mieux comprendre et mieux décrypter l'actualité avec un premier auditeur en ligne. Martin, bonjour.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous les auditeurs Radio Mondiale.
Martin, vous êtes à Yaoundé au Cameroun, vous avez une question concernant la Russie et la crise monétaire qui touche le pays, on vous écoute.
Exactement, la Russie traverse depuis quelques mois l'une des plus graves crises monétaires de son histoire, notamment la forte chute de la valeur du rouble. Ma question est la suivante, quel rôle ont joué les sanctions occidentales dans cette chute du rouble?
Pour vous répondre, Agnieszka Kumor est en studio avec moi. Bonjour Agnieszka.
Bonjour Sébastien.
De la rédaction de RFI. C'est vrai que cette année, le rouble a perdu 41% de sa valeur face au dollar. C'est la pire année pour les marchés financiers russes depuis 15 ans. À cause de son rôle déstabilisateur en Ukraine, l'Europe, les États-Unis ont pris toute une série de sanctions contre la Russie. Bruxelles a réduit l'accès de son marché aux Russes, des embargos ou de fortes restrictions dans l'import-export, des gels d'avoir, des sanctions contre des hommes d'affaires, des banques russes. Bref, Agnieszka, tout ça porte un coup dur à la Russie, même si elle était quand même déjà en difficulté.
Oui Sébastien, l'économie russe n'a pas eu le besoin de sanctions occidentales pour se révéler malade depuis mai 2013. Les faiblesses structurelles dont souffre la Russie font fuir les investisseurs. Cette fuite massive des capitaux étrangers aurait atteint, sur 2014, selon l'évaluation de la Banque centrale russe, 128 milliards de dollars. Les sanctions occidentales introduites contre Moscou à partir de l'annexion de la Crimée en mars dernier et renforcées depuis n'ont fait qu'accentuer ce désintérêt des investisseurs pour la Russie. Parallèlement, les sanctions compliquent fortement la vie des entreprises russes qui ne peuvent plus se financer sur les marchés financiers internationaux. Les marchés extérieurs à la Russie leur sont de fait fermés. Les sanctions coûteraient 40 milliards de dollars par an à la Russie selon le ministre des Finances russe.
Et puis Agnieszka, il y a eu vraiment la chute du cours du pétrole, passé de 115 à 55 dollars le baril en seulement 6 mois. Est-ce que ça a été le coup de grâce là?
Effectivement, car l'or noir avec le gaz représente la majorité des recettes de l'État russe. Et puis, il y a autre chose Sébastien, la faiblesse de la monnaie nationale indique aux Russes que leur économie va mal. Au fur et à mesure que l'inflation ne cessait de monter et que le rouble baissait, les ménages se sont mis à se débarrasser de le rouble en achetant les euros et les dollars. Ce vent de panique a été renforcé par l'échec des interventions successives de la Banque centrale russe. Les marchés et les ménages ont fini par croire que le krach était inévitable et c'est ce qui s'est passé en effet.
Merci Agnieszka. Restez avec nous. Beaucoup de questions concernant cette crise russe. On salue Martin qui nous appelait de Yaoundé au Cameroun. 33 9 693 693 70. En ligne avec nous, Christian. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Sébastien.
Vous êtes à Franceville et vous avez également une question concernant cette crise et cette situation du rouble.
Oui, bien sûr. Je voudrais savoir les mesures adoptées par Vladimir Poutine pour valoriser, n'est-ce pas, le rouble.
Alors Agnieszka, que fait Vladimir Poutine pour faire face à cette chute de sa monnaie ?
Eh bien, à la tête du pays depuis 15 ans, comme président ou comme premier ministre, Poutine est confronté à une crise sans précédent. Il reconnaît que le budget devra être révisé, mais rassure ses concitoyens, le paiement des pensions et des salaires sera garanti grâce aux réserves financières du pays. Pour combattre la crise actuelle, les mesures employées lors de la crise précédente, celle de 2008, pourrait être réemployé. On évoque le contrôle possible des prix des aliments et de l'essence, mais rien de concret pour l'instant. Face aux marchés et aux agences de notation, la Russie défend sa solvabilité. Placée en défaut de paiement en 1998, il ne faut pas l'oublier, le pays serait mieux armé aujourd'hui, grâce notamment à d'importantes réserves de devises accumulées grâce à une décennie de prix élevés du pétrole. Pour l'instant, le gouvernement s'apprête à soutenir surtout le secteur bancaire, très affaibli par le choc monétaire. Un plan de recapitalisation des banques aurait été adopté et la liste des établissements concernés doit être rendue publique d'ici 15 janvier. Le président promet évidemment aux Russes une sortie de crise dans 2 ans, sauf si la situation se corrige avant, ajoute-t-il.
Et si au contraire la baisse du pétrole continue ?
Eh ben, de toute façon, la Russie va entrer en récession. C'est officiellement prévu par le ministère de l'économie russe. Le budget de l'État calqué, lui, sur un prix du baril à 100 dollars, deviendra déficitaire. Certains secteurs, jusqu'à présent prioritaires, comme la défense ou la sécurité, risquent de subir des coupes.
Et d'ailleurs, Anton Siluanov, le ministre des Finances, a appelé à des réductions d'effectifs dans la défense. Il prévoit pour 2015 une baisse de 4% du produit intérieur brut. Merci beaucoup, Christian, d'avoir été en ligne avec nous depuis Franceville. Nous sommes en ligne avec Accra, il s'agit de Balobo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes au Ghana, vous aviez 2 questions concernant ce même sujet.
Oui, bien sûr. Bonjour à toute l'équipe de RFI.
Bonjour.
J'ai 2 questions concernant la crise économique en Russie. La première question, quel est l'impact ou quelles sont les conséquences de cette crise économique sur le peuple russe? Et deuxième question, quelles sont les réactions des Russes face à la chute du rouble?
Allez, je commence pour vous répondre.
Eh bien, l'annexion de la Crimée a rendu Poutine plus populaire que jamais. 80% des Russes lui font confiance. Cette popularité passera-t-elle l'épreuve de la crise? Eh bien, là est la question. Car avec cette baisse de leur monnaie et une inflation qui dépasse les 11%, ce sont les Russes, évidemment, qui trinquent une nouvelle fois. Leur pouvoir d'achat diminue, mais toutes les couches de population ne sont pas touchées de la même manière. Pour leurs vacances de Nouvel An, les représentants de la classe moyenne partent faire du ski à Sochi plutôt qu'en Pologne ou en Autriche. Dans les familles pauvres, on stocke des provisions. Pire, certains ménages ont réalisé les emprunts en dollars. Ceux-là auront du mal à rembourser leur crédit, devenu 3 fois plus cher que prévu. Si la hausse des prix continue, elle risque de provoquer une forte chute de la consommation.
Et une forte augmentation de la colère des Russes. Merci beaucoup Agnieszka. Restez avec nous. Il reste encore un auditeur à écouter. Merci à Balobo qui nous appelait depuis Accra au Ghana. Donc on devait entendre Madi Biné depuis Cancan, mais le problème de ligne ce matin, ça arrive, c'est les lois du direct. Donc je vais me faire son porte-parole, comme dit souvent Juan Gomez. Toujours sur l'impact des sanctions économiques prises contre la Russie qui ont entraîné donc cette crise de l'économie russe. Agnieszka, quelles pourraient être les conséquences de la crise économique russe sur le marché mondial? Et puis l'impact de cette crise sur l'Union européenne.
Eh bien Sébastien, la défiance des investisseurs qui touche en ce moment la Russie pourrait effectivement franchir les frontières russes pour s'étendre aux autres émergents. Car les BRICS, à l'exception de la Chine, sont mis dans le même panier par les marchés financiers. Les pays qui ont des fragilités structurelles pourraient être concernés en premier lieu, notamment le Brésil, la Turquie et le Mexique. La crise pourrait aussi toucher les voisins asiatiques de la Russie, comme le Kazakhstan. Mais en Europe, l'impact serait moindre. La Russie ne représente que 3% des exportations allemandes, par exemple. Bien sûr, l'effondrement de la demande interne russe ne manquera pas d'affecter les entreprises étrangères installées en Russie, en particulier les constructeurs automobiles français et allemands.
Merci beaucoup Agnieszka Kumor d'avoir pris le temps vraiment de nous expliquer en détail cette crise russe, cette chute du rouble, notamment conséquence des sanctions européennes et puis de la chute du pétrole. 33 9 693 693 70 09 693 2 fois 70. Vous nous appelez au standard pour participer à l'émission. En ligne avec nous à présent, bienvenue qui est à Porto Novo au Bénin. Bonjour.
Bonjour Sébastien, bonjour à RFI, bonjour à Camille, surtout à Myriam qui est à vos côtés en studio.
Voilà, bonjour à eux. Vous avez une question concernant la Lituanie qui s'apprête à adopter la monnaie européenne, l'euro.
Bien sûr, dès demain, la Lituanie adopte l'euro, bien sûr. Mais écoutez, du coup, une question me vient à l'esprit. Quels sont les avantages pour la Lituanie à adopter l'euro?
Effectivement, bonne question, hein, puisque la Lituanie sera demain le 19e État membre de la zone euro, étape importante pour ce pays balte qui affiche donc un taux de croissance parmi les plus élevés de l'Union européenne. Pour répondre à vos questions, Myriam Berber du service économique, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors, cette question, très simple mais très intéressante, quels sont les avantages pour la Lituanie d'entrer dans cette zone euro?
Apparemment, bienvenue, la Lituanie n'a pas besoin de la zone euro. Sa santé économique est très bonne, avec une croissance de 3% en 2014 et de 4% attendue pour 2015. La Lituanie fait figure de bon élève au sein de l'Union européenne. C'est exceptionnel par rapport aux autres pays de la zone euro. Du côté des finances publiques, les chiffres sont bons également. La Lituanie est sortie de la procédure pour déficit excessif mise en place par l'Union européenne. Le déficit budgétaire plafonne désormais à 3% du produit intérieur brut et le taux de chômage a chuté de 20 à 12% de la population active. Autre signe encourageant, le pays emprunte à des taux autour de 3% à 10 ans, un taux qui se situe dans la fourchette basse de la moyenne de la zone euro. Le seul secteur où la Lituanie est fragile est sa dépendance énergétique à la Russie. Moscou a en effet le monopole de la fourniture du gaz dans le pays. Ce n'est donc pas sur le plan économique que la Lituanie a tout à gagner, c'est surtout sur le plan politique. Le pays voit l'euro comme un rempart contre la Russie et une manière de s'ancrer fermement à l'ouest, comme l'ont déjà fait ses deux voisins, l'Estonie et la Lettonie. Il faut dire que l'intervention de la Russie en Ukraine a fait renaître les anciennes peurs. Rappelons-le, les pays baltes ont vécu pendant un demi-siècle sous l'occupation soviétique jusqu'en 1991, puis ils ont rejoint l'Union européenne et l'OTAN en 2004.
Alors l'entrée dans la zone euro, c'est un événement majeur quand même pour la Lituanie, mais ça a une grande importance pour tous les pays membres de la zone euro, puisque ça va bouleverser, Myriam, le fonctionnement de la BCE, la Banque Centrale Européenne.
Effectivement Sébastien, la présence de la Lituanie va bouleverser le vote au Conseil des gouverneurs de la BCE, l'instance de décision de l'institution. Avant, tous les membres de ce Conseil de gouverneurs participaient chaque fois au vote. D'un côté, les 6 membres du directoire de la BCE, dont le président Mario Draghi, et de l'autre, les 18 gouverneurs des banques centrales nationales. Mais en 2002, il avait été décidé que dès que l'on dépasserait 18 États membres dans la zone euro, il y aurait un système de rotation qui serait mis en place dans ce Conseil. Or, c'est chose faite avec l'entrée de la Lituanie demain dans la zone euro. Ils seront désormais 19 États membres. Dans ce nouveau système, les 6 membres du directoire de la BCE conservent leur droit de vote. En revanche, pour les 19 gouverneurs des banques centrales, 2 groupes ont été mis en place. D'un côté, les 5 premières économies, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, et les Pays-Bas se partageront 4 droits de vote. Quant aux 14 autres petits pays, ils disposeront collectivement de 11 droits de vote. Cela signifie, Sébastien, qu'une fois sur 5, l'Allemagne ne va pas siéger au Conseil des gouverneurs et ne pourra pas systématiquement imposer ses points de vue. Cela veut dire qu'il y aura une brèche de temps en temps pour imposer des mesures que Berlin ne veut pas.
Voilà, Lituanie, petit pays, mais c'est pas anodin quand même cette entrée dans la zone euro. Merci beaucoup Myriam Berber du service économie de RFI. On salue bienvenue qui nous appelait depuis Porto Novo au Bénin. Merci pour votre question. 33 9 693 693 70 09 693 2 fois 70. En ligne avec nous au standard à présent, Alain, bonjour.
Alors, bonjour à tous les auditeurs de la Radio du Monde et aussi à vous, Sébastien.
Vous êtes à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et vous avez une question sport-football concernant l'équipe ivoirienne des éléphants.
Exactement.
On vous écoute.
Alors, j'ai des questions concernant la Fédération ivoirienne de football. Alors, la première question, pourquoi le gouvernement a finalement accepté le budget présenté par la FIFA pour la préparation des éléphants pour la CAN 2015 alors que ce budget a fait l'objet de bras de fer? Alors la deuxième question, comment la FIFA arrive-t-elle à construire son budget annuel et quelles sont ses sources de financement?
Alors effectivement, le gouvernement ivoirien a accepté jeudi dernier le budget prévisionnel pour la participation des éléphants à la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Un budget prévisionnel conforme à celui établi par la FIFA, la Fédération ivoirienne de football, 3,5 milliards de francs CFA, alors que le ministère des Sports, lui, n'était prêt à verser que 310 millions de francs CFA. Bonjour Emmanuel Kofi.
Bonjour Sébastien, bonjour Alain, bonjour à tous.
Vous êtes le correspondant du service des sports de RFI en Côte d'Ivoire. Pourquoi le gouvernement a accepté ce budget de la Fédération ivoirienne de football?
Alors, avant de répondre à la question d'Alain, je voudrais d'emblée dire que c'est l'État qui finance la sélection pour toutes les fédérations sportives. Mmh. Il y en a toujours été ainsi. Pour la CAN 2013 en Afrique du Sud, l'État a ainsi approuvé un budget de 4 milliards 378 millions de francs CFA. Répartition, 3 686 millions pour la fédération et 690 millions CFA pour le ministère. On se souvient qu'en Afrique du Sud, les éléphants ont été éliminés en quart de finale par le Nigeria. À ce niveau de la compétition, l'État a effectivement décaissé pour la fédération la somme de 2 713 millions sur les 3 686 millions budgétés par la fédération. Pour la CAN 2015 qui va se jouer en Guinée équatoriale dans quelques semaines, la fédération a effectivement présenté au ministère un budget de 3 553 millions. Contre-proposition du ministre, 310 millions. Rejet de la fédération qui a clairement fait savoir qu'elle n'était pas en mesure de financer la préparation et la participation des éléphants à la CAN 2015 avec seulement 310 millions CFA. Alors, le ministère et la fédération en étaient là à se chamailler quand un bon père de famille, le président Alassane Ouattara, en personne a tranché en validant l'intégralité du budget présenté par la fédération, nous l'avons dit, 3 553 millions. Mmh. Alors, ce qu'il faut savoir, Sébastien, c'est que ces fonds seront gérés par un fonctionnaire du ministère de l'économie et des finances, le régisseur des compétitions internationales. C'est d'ailleurs comme cela que les choses se sont toujours passées. Les fonds ne sont jamais mis directement ou intégralement à la disposition de la fédération. Sauf, Sébastien, quand le régisseur ne peut pas se déplacer. Dans ce cas, il fait des chèques et provisionne la fédération qui justifie par la suite toutes les dépenses en fonction du budget initialement validé.
Emmanuel, Alain avait une seconde question concernant les sources de financement de cette Fédération ivoirienne de football. Il nous reste une petite minute pour en parler. Comment est-ce que la FIFA se finance?
Alors, comment la FIFA se finance? Il faut dire que l'État ne finance pas la Fédération. Elle ne lui accorde aucune subvention. Les ressources de la Fédération, ce sont les frais d'adhésion des clubs de première, deuxième et troisième division, les retombées des participations aux Coupes du Monde. Il faut dire que la Côte d'Ivoire a participé à trois Coupes du Monde, en Afrique du Sud, en Allemagne et au Brésil, et cela a engrangé pour la fédération un peu plus de 15 milliards de francs pour les trois participations. Et il y a aussi les ressources engrangées auprès des sponsors. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent qui est engrangé par la fédération, mais la fédération dépense beaucoup également. Elle finance toutes les compétitions qu'elle organise, 12 compétitions du championnat de Ligue 1 aux compétitions de jeunes. Elle aide les clubs qui vont en compétition internationale elle subvient au, elle subventionne les clubs, 50 millions pour les clubs de première division chaque saison, 20 millions pour les clubs de deuxième division, 15 millions pour les clubs de troisième division. Alors quand on fait le calcul avec 76 clubs, cela va chercher plus d'un milliard de francs CFA par saison. Le CEO Saint-Pedro, par exemple, qui a joué la Coupe nationale de la Coupe de la Confédération cette année, a dû percevoir cette année donc un peu plus de 80 millions de francs CFA.
Plus de 80 millions de francs CFA, effectivement, ce sont des chiffres importants. Merci beaucoup Emmanuel Coffi de nous avoir répondu depuis la Côte d'Ivoire. On salue Alain qui nous appelait depuis Abidjan. Dans 30 secondes, le journal et après le débat.
Appel sur l'actualité vous a été proposé par Orange Monnaie. Transfert d'argent et paiement de factures.